Voilà, et je propose sans transition de vous remercier, si vous voulez bien regagner vos places, et je propose aux intervenants de la première table ronde de bien vouloir nous rejoindre dès maintenant. Alors, le temps que tout le monde s'installe, on va vous présenter une petite vidéo sur ce qu'est l'action intercommunale des collectivités. Donc, on peut lancer la vidéo en régie, le temps de permettre à nos participants de s'installer. Alors, donc je rappelle les personnes qui nous rejoignent. Donc Jean-Marie Tétard est là, donc Élise Pereira-Nunes est là, Fatimatou Abdelmalik sera en visio, de même que Madame Cho de Séoul. Puis nous aurons Gérard Wolf, s'il veut bien nous rejoindre, de même que Madame Moreau, Tony Benlaoussine et Corinne Lajar qui nous a rejoint. Merci de venir nous rejoindre les uns et les autres.
Désormais, les collectivités territoriales françaises construisent avec leurs partenaires étrangers des politiques publiques locales. Avec la contribution financière de l'État, de l'AFD et de l'Union européenne, la coopération devient une politique publique transversale. Les années 2010 voient émerger la notion d'ICT qui englobe également les enjeux de développement économique. Pourquoi faire de la coopération? Vous pouvez, par la coopération, faire émerger des solutions spécifiques pour résoudre des problématiques liées à la gestion des biens communs. L'action internationale permet de mettre en valeur vos savoir-faire, ce qui ouvrira de nouvelles perspectives économiques grâce au rayonnement culturel et à l'attractivité de votre territoire. L'action à l'international contribue aussi à instaurer une relation de confiance entre vous et vos citoyens, pour les associer aux actions de votre territoire. Les collectivités territoriales sont porteuses d'une diplomatie et d'une expertise qui leur sont propres. Elles représentent la France dans toute sa diversité. Osez vous engager à l'international et rejoignez-nous.
Voilà, alors bienvenue dans cette première conférence table ronde. Je vous présente donc Corinne Lajarge, donc, qui est chercheure au CIEDEL et qui aura un regard un peu, je dirais, distancié sur les interventions des uns et des autres et qui nous proposera aussi des éléments de synthèse et de mise en perspective. Jean-Marie Tétard, qui est maire de Houdan et qui est par ailleurs président du GIP départemental, donc sur la coopération décentralisée. Élise Pereira-Nunes, qui est toute jeune, toute récente élue aux relations internationales de la ville de Tours. Christine Moreau, que l'on ne présente plus, donc de la DECT. Tony Benlaoussine, donc, qui est président du CIRMA, donc la conférence des présidents de RRMA, et qui nous rejoint, donc Gérard Wolf, qui est président de la Task Force Ville Durable du MEDEF International. Alors, nous aurons en visio Fatimatou Abdelmalik, qui est présidente de la région de Nouakchott en Mauritanie. Et nous aurons un témoignage. La visio en live n'a pas été possible, a été un peu compliquée avec la Corée aussi pour des questions d'interprétation. Et donc, nous aurons un message de Madame Eun Cho, qui est maire de Seocho, de la métropole de Séoul. Alors, cette première table ronde a pour enjeu, enfin, se pose en tout cas la question de savoir, dans un contexte post-Covid, est-ce que l'action internationale des collectivités est un luxe ou une nécessité ? Alors, on a eu toute une série d'interventions précédemment qui ont pris position sur ce sujet, hein, de collectivités françaises, du réseau international. Et on va passer un petit peu de temps donc, avec notamment Jean-Marie Tétart et Élise Pereira-Nounès pour savoir, de leur point de vue, alors des points de vue différents, je dirais, Madame Nounès rejoint la coopération, Monsieur Tétart la pratique depuis de longues années, donc des visions différentes et certainement complémentaires. Et d'abord, j'aimerais vous entendre l'un et l'autre. Alors, on va peut-être commencer par Jean-Marie Tétart, si vous en êtes d'accord. De votre point de vue, en quoi... Oui, alors, on va rester à table. En quoi la crise sanitaire et ses répercussions renforcent-elles ou pas la légitimité et la pertinence de l'action internationale des collectivités?
Oui, bien, bonjour à tous. Je crois que les différentes interventions qui ont été données ce matin de la part du ministre, de la part de Madame l'ambassadrice ou de Monsieur Risse montrent effectivement, ou Madame Hidalgo, montrent que loin d'éteindre le besoin de solidarité, au contraire, c'est un révélateur qu'on ne pouvait pas vivre sa vie tout seul dans son village, dans sa ville et son pays si le reste du monde allait mal. Et je crois que ce qui a été dit par Monsieur le ministre, je crois, en disant que faire quelque chose ailleurs, c'était assurer sa propre sécurité. C'est peut-être une argumentation simple à faire passer à nos concitoyens. Moi, je crois surtout que les élus locaux ne peuvent pas, dans des programmes électoraux, promettre à leur population un avenir meilleur dans tous les domaines, dans l'emploi, dans l'environnement, dans la santé, si le reste du monde ne va pas faire l'effort à la même vitesse, parce qu'il sera impossible d'obtenir chez nous des résultats durables si le reste du monde ne va pas bien. Et je crois que ça... Aujourd'hui, les images frappantes de la pandémie, les images frappantes des catastrophes dues au changement climatique, les phénomènes de réfugiés, etc., font prendre conscience dans chaque foyer. Si l'urgence de nos habitants n'est pas dans l'urgence primaire, ces images-là font prendre conscience d'une solidarité inévitable. Alors, je crois que les gens prennent conscience aussi que les États ont des rôles à jouer là-dessus, mais se rendent compte que nous avons aussi, en tant que citoyen ou en tant qu'élu, à porter ces questions.
Merci. Alors, en quelque sorte, une prise de conscience des élus que nous partageons une planète commune et que nous sommes confrontés à des problématiques que nous ne pourrons résoudre qu'ensemble.
Je crois qu'on doit se rendre compte, on a parlé de l'accès aux services, si je prends le problème des déchets, qui est un problème mondial, nous en sommes chez nous à améliorer la collecte sélective que l'on pratique déjà, etc., etc. Je me demande de temps en temps si je dois continuer à améliorer pour obtenir un rendement de 99%, on sait que les derniers pourcentages sont souvent très chers, et que quelque part, cet argent-là, je ne pourrais pas le mettre davantage dans ma coopération pour que les déchets aillent mieux ailleurs, plutôt que d'être parfait chez nous.
Madame Pereira-Nounès, alors, on a entendu notamment Madame Saïs parler des enjeux démocratiques, Madame Hidalgo évoquait aussi la question de l'égalité homme-femme. Je sais que vous êtes particulièrement attachée aussi aux questions de lutte contre les discriminations, aux questions d'égalité homme-femme. Alors, en quoi, selon vous aussi, cette crise du Covid amène ou pas les collectivités à s'investir dans une action internationale renforcée et comment prendre en compte aussi ces préoccupations et ces questions?
Alors,
ça marche, je pense.
Ça marche?
Oui.
Donc, merci encore pour cette invitation. Je tiens à préciser que je pense que lorsque nous sommes retrouvés tous confinés en France ou ailleurs, on ne s'est pas encore rendu compte qu'on avait vécu une expérience collective planétaire. Qui n'est pas terminée pour certains, il faut le rappeler. Et on s'est aussi rendu compte que les enjeux des uns pouvaient être les mêmes que les autres, même à 10 000 km. Je pense qu'être dans un 25 mètres carrés, qu'on soit à Tours, qu'on soit à Lima, ou qu'on soit à New Delhi, ou qu'on soit c'est tout à fait la même chose que d'être parfois... pour moi, c'est plus une question presque de classe sociale hein, que de distance kilométrique. Donc je pense que ça, c'est très important de se le dire, de le partager. Je pense que les citoyens ont beaucoup fait, les réseaux sociaux ont beaucoup aidé cette dynamique. Mais c'est aussi là qu'on s'est rendu compte que les problèmes des uns étaient les mêmes problèmes que les nôtres. Je pense notamment aux violences envers les femmes. On sait très bien que le confinement dans tous les pays n'a fait que renforcer ces violences. On sait bien que ces violences touchent également les enfants qui deviennent co-victimes. On sait aussi qu'il y a eu des violences auprès des personnes LGBT quand elles se retrouvaient enfermées, parfois aussi avec les personnes qui au quotidien les malmènent, notamment quand ça se passe dans la cellule familiale. Et ce qui était très intéressant très rapidement, c'était d'observer qu'est-ce qui pouvait être fait chez nous comme ailleurs pour lutter contre ces problèmes, sachant que ça renforce une fois de plus l'invisibilisation de ces combats. Et on s'est aussi rendu compte que, par exemple, en période de confinement, une femme pouvait peut-être sortir, échapper à sa situation en allant faire des courses. Et c'est là qu'on a regardé un petit peu ce qui pouvait se faire ailleurs et que certaines villes ont proposé dans des supermarchés des espaces avec des associations visibles pour que les femmes puissent aller peut-être parler. C'était peut-être leur seul espace de dialogue et leur seule porte de sortie. Au-delà de ça, on s'est aussi rendu compte que, à l'inverse, pendant le confinement, il y a des personnes qui ne sont jamais mises à l'abri qui l'ont été. Je pense aux personnes sans abri. Dans des pays comme la France, on a beaucoup de mal à les abriter, à les mettre à l'abri, puisqu'on n'a jamais de place, jamais d'argent, jamais de moyens, jamais peut-être une envie suffisante, selon parfois aussi l'origine qui est la leur. Puis là, on a réussi à les mettre à l'abri parce qu'on n'a pas le choix. Et je pense que quand on n'a pas le choix, on fait beaucoup plus quand on l'a. Et là, en matière de changement climatique, on ne va plus avoir le choix non plus. Donc, une fois de plus, je pense qu'il faut absolument axer les choses sur la prévention plutôt que sur la réponse, qui est très souvent trop tard, qu'il s'agisse de violence ou qu'il s'agisse de climat. Là, on le voit très clairement progressivement. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant à la sortie du confinement, de voir comment les uns et les autres s'étaient débrouillés. J'ai eu la chance d'intégrer une municipalité avec une équipe extrêmement compétente qui m'a très rapidement mise au fait de tous les leviers que l'on pouvait avoir pour partager l'expérience et pour travailler ensemble. Et par exemple, j'ai appris que nos collègues, par exemple, à Port-Boué, dans un pays africain, avec le regard que l'Europe peut parfois avoir sur l'Afrique, c'est eux qui étaient inquiets pour nous, et pas l'inverse. Donc peut-être se demander qu'est-ce qui a pu chez eux générer cette inquiétude.
Tout à fait. Alors, vous évoquiez effectivement la question des violences faites aux femmes. On a vu des reportages, des statistiques sur effectivement la situation en Amérique latine. Alors, on l'a dit aussi en France. On l'a dit aussi en Amérique latine, où il y a eu notamment au Chili une recrudescence des violences faites aux femmes. Alors, cette question, dans la coopération, de la place, de la préoccupation que l'on porte aux femmes, notamment à l'égalité homme-femme, mais aussi à la place des femmes en politique, est-ce que c'est pour vous aussi un axe important de travail dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir ?
Alors, absolument, sachant que quel que soit le pays dont on vient, je pense que c'est toujours très difficile pour les femmes de se faire entendre, même dans des sociétés qu'on estime être plus égalitaires, je pense que c'est très difficile. Et justement, il faut peut-être que les femmes prennent leur place, comme on le dit très souvent, mais pour qu'elles la prennent, il faut aussi leur laisser un petit peu de terrain. Il faut aussi un petit peu travailler sur tout ce qui est rôle de genre, pour qu'on arrête de se construire comme étant persuadé que les femmes sont peut-être moins capables, ou qu'elles sont enfermées dans des rôles qui font qu'elles ne pourront peut-être pas tout conjuguer. Et ça, encore une fois, c'est vrai à Tours, c'est vrai dans n'importe quel pays, et évidemment, parfois les violences envers elles les contraignent extrêmement plus au silence et à l'invisibilité. Donc moi, je pense que ce qui se passe en termes d'égalité dans un service municipal rejoint les problèmes que l'on peut trouver dans des pays où c'est carrément leur liberté de mouvement qui est entravée.
Alors, si on est en capacité de passer, de switcher sur la visioconférence, je propose qu'on donne tout de suite la parole à une autre femme élue, donc Fatimatou Abdelmalik, pour qu'elle puisse réagir aux propos qui viennent d'être tenus et nous dire aussi comment, de son point de vue d'élue en Mauritanie, quelle est sa perception justement des enjeux de l'action internationale des collectivités et comment elle voit cette perspective dans les années qui viennent. Alors, Fatimatou Abdelmalik, est-ce que vous nous entendez ? La connexion se fait. Alors, on n'a pas la caméra, mais peut-être avons-nous le son. Je ne sais pas si le micro est branché. Madame la Présidente, est-ce que vous nous entendez ? Non ? Alors, on attend juste de voir si la communication peut se faire. Bon, le temps peut-être que les problèmes techniques puissent éventuellement être résolus. Jean-Marie Tétard, je reviens sur vous pour que vous puissiez aller un petit peu plus loin en nous disant comment, au regard de cette nécessité que vous évoquez d'une action internationale pour les collectivités, comment vous la voyez évoluer dans les années qui viennent, au regard, effectivement, on l'a dit, de la crise du Covid, mais aussi au regard d'un contexte global de raréfaction de la recette, de recentrage sur les compétences. Comment vous voyez cette évolution et la prise en compte des besoins? Vous évoquiez les services publics. Comment vous voyez cette évolution?
Je crois qu'on ne peut pas la séparer de l'évolution du système d'organisation de nos collectivités locales en France. En quelques années, nous sommes passés de 36 000 communes qui existent toujours à, je crois, 1250 intercommunalités avec encore une proportion importante de communautés de communes, mais aussi des communautés d'agglos, etc., communautés urbaines. Et finalement, on ne coopère normalement que dans son domaine de compétences. Et comme beaucoup de compétences sont passées à ces niveaux-là, on pourrait se dire que le rôle des collectivités de base va se restreindre. C'est une vraie interrogation. Et donc, est-ce que la coopération décentralisée serait réservée uniquement aux collectivités qui ont une compétence donnée à un moment donné? Donc ça, c'est une première question. La deuxième question est de savoir effectivement ce qu'on met dans la coopération décentralisée, dans l'action internationale plutôt. Je crois que les RRMA le diraient mieux que moi. Les collectivités ont sans doute un rôle important pour organiser l'éducation à la citoyenneté, l'éducation, la sensibilisation à la solidarité internationale. Ça, c'est une mission qu'elles peuvent organiser. La seconde, elles ont le droit de prendre des coopérations dans leur champ de compétences, mais elles ont aussi dans leur champ de compétences peut-être à appuyer des initiatives de la société civile ou des initiatives de leur collectivité locale membre, y compris lorsqu'elles mobilisent, et ça sera de plus en plus fréquent, le 1% dont on a parlé tout à l'heure, parce que les compétences eau étant exercées dans des syndicats mixtes, est-ce que cet argent n'est pas aussi collecté pour être quelque part redistribué pour appuyer les initiatives de base, que ce soit de la société civile ou de collectivités qui s'engageraient? Donc il y a là, finalement, à repenser ces choses-là en se disant que peut-être une collectivité doit, quelque part, avoir une politique locale de solidarité internationale. Et si c'est une politique locale, comme on a des politiques locales de l'enfance, du sport, etc., on l'organise. Et si on l'organise, on se donne, sans doute, on adopte en début de mandat un rapport d'une politique d'orientation générale sur la solidarité internationale qui décline objectifs, priorités, moyens personnels, moyens extérieurs, modalités d'action. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas une politique. Et donc, je crois que c'est une occasion dans ce nouveau millefeuille des collectivités de repenser, effectivement, le rôle de chaque là-dedans, mais surtout ne pas oublier que les collectivités sont un animateur de territoire et qu'elles doivent être, finalement, elles sont responsables, ces collectivités d'un niveau intercommunal, syndicaliste. Ce sont c'est à eux d'organiser la mise en coopération et en solidarité internationale du territoire. Et le territoire, ce n'est pas une géographie, c'est des acteurs les plus divers, allant du collège à l'hôpital, au lycée, etc. Et c'est ça qu'il faut penser. Ce n'est pas aussi facile que ça, mais ça demande d'avoir une vraie politique locale dans ces intercours.
Donc, si je vais être un peu provocatrice, Jean-Marie, l'action internationale de la collectivité, une politique publique, donc ça n'est plus la danseuse ou l'envie d'un élu qui a fait une rencontre ou qui a envie d'aller voyager, c'est une politique publique. Ça veut dire que c'est un élément, comme les autres politiques, de l'organisation de la collectivité, quelle qu'elle soit, et donc, effectivement, ça n'est pas quelque chose à part, mais c'est bien partie prenante du projet de développement territorial.
Et ça donne lieu, à mon avis, à débat comme d'autres politiques. Et ça s'exprime dans un niveau de responsabilité tant dans les services que dans les élus. Et je suis très heureux de voir, y compris dans mon département des Yvelines, de voir que cette fois-ci, nous avons dans des villes importantes des adjoints à la solidarité internationale, à la citoyenneté, etc., qui ne sont pas le conseiller délégué de 15e position, qui sont des adjoints dans un certain rang, et ça exprime qu'effectivement, on prend ces choses-là au sérieux, parce que ça a aussi une importance. C'est que parmi tous les acteurs de la société civile dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a aussi toutes les associations de migrants, etc., et qu'ils font partie du territoire, et qu'on ne peut pas les considérer simplement on doit les considérer aussi comme des acteurs de la solidarité internationale et de la mise en coopération de nos territoires. Et c'est donc ça, ça me paraît très important.
Merci. Élise, comment vous réagissez à cette vision de l'action internationale comme étant une politique publique?
Alors, moi, je partage tout à fait votre opinion. Je pense d'ailleurs que au-delà de ce que les municipalités peuvent estimer être une répartition des moyens, des budgets alloués à tel ou tel service, quand on prépare un programme électoral, on prépare un programme pour parler aux électeurs locaux. Donc, on oublie parfois la dimension internationale de ce que peut avoir l'action d'une mairie. Et en fait, une fois de plus, je pense qu'il faut retourner auprès des citoyens. Il faut regarder qui sont les citoyens de notre ville, comment elle est constituée. Bah, les citoyens de notre ville sont des personnes de tout type, de tout genre, de toute origine ethnique. Et ils sont présents sur ce territoire et ils ont aussi une appétence pour parfois partager leur culture, la culture de leurs parents éventuellement. Et c'est aussi à eux qu'il faut répondre, c'est aussi à eux qu'il faut donner une visibilité parce que cette ville, elle est constituée avec et par eux. Donc il faut absolument les valoriser et travailler avec eux, non pas leur proposer des projets sur lesquels ils puissent se greffer, mais aussi faire des forces de proposition. Et quand on parlait tout à l'heure de transversalité, je pense que, moi c'est ce que j'ai constaté dans ma délégation, l'internalisation est extrêmement importante. Moi j'ai demandé à mes camarades, par exemple élus, de réfléchir à leurs actions avec une dimension internationale. Par exemple, l'adjoint à la gastronomie va travailler sur les questions de gastronomie et de rayonnement de la gastronomie locale, mais également peut-être travailler sur des partages de bonnes pratiques avec des chefs étrangers. Quand on va parler de la question de l'égalité femmes-hommes, ça va être concrètement, oui, l'égalité femmes-hommes en local, certes, mais pas que, puisque nous n'avons pas forcément toutes les mêmes problématiques selon, encore une fois, les quartiers d'où on vient, la vie que l'on mène, l'accès de notre classe sociale, une fois de plus. Donc c'est très important de regarder comment ça se passe aussi ailleurs et comment mieux fonctionner ensemble. Moi, quand je vois vraiment le peu d'argent qui est alloué à ces services, je le déplore puisque... Comment le dire correctement. Je pense qu'on a beaucoup trop négligé ce que ça pouvait nous apporter. Et pour que ça nous apporte, il faut aussi investir un minimum nous-mêmes. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on va travailler sur... Je prends un exemple que je connais par rapport à la catastrophe qui s'est produite au Liban. Il y a une réponse à apporter. Il y a une réponse émotionnelle, certes, mais une réponse aussi diplomatique. Ça, c'est le premier élan. Mais il y a aussi la réponse financière. Auprès de qui se tourner? Nous, on a voulu se tourner vers Cités Unies France, déjà même pour rassurer nos collaborateurs, pour leur dire que le Liban, la situation politique est telle qu'elle, mais les populations locales ont besoin de notre soutien. Ça, c'est vraiment l'importance. La communauté libanaise locale a besoin de voir qu'on s'intéresse aux problématiques de leurs familles sur place. Mais il faut aussi voir ce que ça va avoir comme rôle sur les... Ben encore une fois, les avancées ou pas en local. Je pense encore une fois à la question des femmes, qui pour moi est très importante, et voir comment elles aussi... elles sont victimes ou non de ce type de catastrophe. Et un dernier point, je pense également, encore une fois, à la dimension culturelle, puisqu'on ne parle pas que d'économie, on parle aussi de patrimoine, on parle aussi d'art qui a été détruit. Et nous, plutôt que de faire aussi des gros projets, je pense à une collègue hier qui a parlé des petits projets qui ont beaucoup d'importance. Le fait de proposer, par exemple, à nos étudiants des Beaux-Arts qui sont spécialisés en reconstruction et en restauration de sculptures, de faire venir quelques œuvres, mais alors peut-être 5, mais quelques œuvres de Beyrouth pour qu'elles soient restaurées par des étudiants. Et je pense que ça, pour le peuple libanais, tout comme pour notre communauté locale et pour nos étudiants, tout le monde y gagne. Et je pense qu'on doit continuer dans cette direction. Un dernier point, par rapport aux associations également, je pense que la question des objectifs de développement durable est essentielle et qu'il faut qu'on accompagne aussi nos associations quand elles proposent des projets à rentrer dans certaines cases, non pas les forcer, puisqu'il faut toujours avoir leur consentement et être pédagogue et accompagner. Mais plus on va les distiller, plus je pense que les gens vont entendre parler et ça fera une forme de résonance. C'est comme ça qu'on va réussir à planter ces petites graines et qu'elles vont réussir, je l'espère, à prendre.
Tout à fait. Merci. Alors, Madame Fatimitou Abdelmalik, donc bonjour, Madame la Présidente. Vous avez pu suivre les premiers échanges entre Jean-Marie Tétart et Élise Pereira-Nounès. Donc, la question qu'on voulait vous poser, c'est aussi, de votre point de vue de présidente de collectivité en Mauritanie, quelle vision vous avez des enjeux de l'action internationale des collectivités, que ce soit chez vous, en France, au Sahel ou dans d'autres pays. Et comment vous voyez les perspectives de cette coopération et de cette action internationale des collectivités? À vous la parole.
Merci Geneviève. Bonjour à tous et à, tous et à toutes. Je suis désolée du retard, c'est parce qu'il y a un décalage horaire entre, comme vous le savez, entre nous et la France. Donc, d'abord, j'aimerais bien vous féliciter, vous encourager, vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de participer justement à ce webinaire extrêmement important, à ces échanges extrêmement importants. Et c'est l'occasion de dire aussi que l'action internationale des collectivités territoriales est une nécessité et non un luxe, pour plusieurs raisons. Parce qu'elle va nous permettre d'abord de mutualiser nos efforts, de mutualiser nos expériences réussies au niveau des différentes collectivités, aussi bien au niveau national qu'au niveau international et au niveau sous-régional, comme vous l'avez dit, au niveau du Sahel. Ça va nous permettre aussi de pouvoir lister et répertorier les priorités dans nos collectivités. Ça va nous permettre aussi de pouvoir être en constante réflexion pour innover et pour améliorer les services, parce qu'encore une fois, nous sommes, et on ne le dira jamais assez, nous sommes mieux placés que quiconque pour connaître les besoins et les défis qui sont liés à nos territoires. Et donc, nous sommes appelés, non seulement en tant que prestataires de services, mais aussi en tant que acteurs déterminants dans tous les programmes de développement. Et le COVID-19 nous a enseigné beaucoup de choses. Il nous a enseigné d'abord que le rôle des collectivités locales est extrêmement important pour les citoyens, compte tenu de la relation intime qui nous lie avec les citoyens. Nous sommes la proximité, donc il ne connaît pas, il ne peut pas aller ailleurs. Son problème va être posé sur la table de son élu local. Donc ça va de soi. Il nous a enseigné que des pays, des villes, qui ne sont pas en mesure de satisfaire ou d'assurer leur autosuffisance alimentaire n'auront plus leur raison d'être. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous, la région de Nouakchott, d'avoir engagé très tôt une réflexion, et nous sommes en train de la mettre en œuvre pour une agriculture urbaine qui va permettre de créer des opportunités d'emploi, mais aussi d'alimenter le marché local en légumes. Et ça va améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Ça entre dans ce cadre. Donc, nous avons aussi, toujours dans ce cadre du COVID-19, la lutte contre le COVID-19 ou la limitation de propagation de ce virus, nous avons entrepris un certain nombre d'actions à l'endroit des citoyens vulnérables, parce que nous sommes au niveau de la Mauritanie et particulièrement le secteur informel occupe aux environs de 60 à 70% de nos populations. Donc, ils ne trouvent refuge que dans le secteur informel. Donc, nous étions obligés, et comme le COVID a pu casser, étrangler ces activités informelles, nous étions obligés de venir en appui justement à ces populations, à ces franges de populations vulnérables qui n'avaient plus d'activité. Ceci a consisté à la distribution de denrées de première nécessité, mais d'accompagnement pour des petites activités génératrices de revenus qui ont pu faire sortir en tout cas, accompagner un accompagnement à ces segments de population vulnérables. Nous avons aussi ciblé un autre segment extrêmement important que sont les élèves, parce que avec la déperdition, avec le COVID et la fermeture des institutions scolaires, il y a eu une cassure. Donc il fallait vraiment opter pour un lien, pour assurer un lien entre l'élève et ses cours et ses professeurs. Et pour cela, nous avons adopté une plateforme, créé une plateforme numérique qui a permis, qui a reçu plus de 3 000 inscrits et qui a permis, nous avons ciblé des professeurs, une crème de professeurs, qui a permis d'assurer des cours de rattrapage, des cours de renforcement pour ces élèves-là. Surtout, on a ciblé la frange des élèves qui font le bac. Et espérons, ces jours-ci, nous sommes en train de faire le bac. J'espère que les jeunes, les élèves qui ont participé à cette tribune, à cette plateforme, réussissent à leur bac. Donc, c'était une façon de ne pas créer, combler le vide qu'il y avait entre l'élève et ses cours. Espérons que ça donnera un fruit. Alors, nous avons aussi mené des campagnes de sensibilisation, nous avons redéfini les priorités et nous aspirons à mettre à profit, à mutualiser toutes ces expériences avec d'autres villes, mais aussi recevoir des autres villes, des expériences réussies. Nous avons pour l'occasion remercié, nous allons remercier pour l'occasion aussi l'AMF qui a contribué vraiment de façon significative pendant ce COVID-19 et nous a aidé à mobiliser un certain nombre d'équipements pour les communes et pour les populations des quartiers. Nous remercions aussi la région Île-de-France parce qu'elle a été d'un appui important aussi en envoyant plus de 100 000 masques pour nos populations. Ça nous a permis d'aider à la fois justement le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi les mosquées, les hôpitaux, les structures de santé, les populations, les associations de femmes, les fêtes des groupes de jeunes, etc. Donc ça nous a permis, ça nous a un peu, si vous voulez, aider à appuyer ces différents segments. Je pense que cette action internationale des collectivités territoriales, encore une fois, est une nécessité et nous aspirons à ce qu'elle puisse permettre aux différentes villes du monde pour mutualiser leurs efforts, pour mutualiser leurs expériences réussies. Et je suis certaine que ça va alléger les souffrances de nos populations, mais ça va nous conforter aussi dans d'autres programmes, dans d'autres planifications, dans d'autres plans que nous allons élaborer dans le futur pour l'après-COVID, parce que nous avons eu beaucoup d'enseignements et nous pensons que cela pourrait être très utile. Je suis désolée du retard, encore une fois, et je suis désolée de n'avoir pas entendu les différentes communications, les différentes interventions. Je suis certaine qu'elles sont intéressantes. Je prends les traits en marche et je vous remercie.
Merci infiniment. On vous applaudit. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, si je reprends ce que vous avez dit, ce qu'ont dit les deux élus précédents, donc on a entendu mutualiser, recenser les bonnes pratiques, innover, améliorer les services, améliorer la qualité des services publics et faire en sorte qu'ils soient accessibles à tous les publics. Nous avons entendu aussi le fait que nous partagions des biens, mais aussi des défis communs, environnementaux, sociétaux, économiques, que nous pouvions aussi échanger autour d'outils numériques. Alors, le rôle important des différents acteurs, les RRMA, les entreprises, l'État, en accompagnement effectivement et en réponse aux collectivités. Alors, je voudrais maintenant, si vous en êtes d'accord, et après nous entendrons le témoignage de Madame Cho en Corée, donner la parole rapidement à nos trois interlocuteurs qui sont entreprises, RRMA, État, et qui pour qu'ils puissent réagir aussi à ce que les uns et les autres ont dit et faire ressortir ce qui, de leur point de vue, leur semble important, notamment en matière d'évolution de cette action internationale. Donc je vous propose peut-être dans l'ordre, donc Gérard Wolf. Alors, voilà.
Bonjour tout le monde, merci. Merci Geneviève. J'ai enlevé mon masque parce qu'on l'entend quand même nettement mieux et je me mets à distance pour être tout à fait dans les normes. Moi je voudrais simplement réagir sur deux points puisque tu nous demandes de réagir. Le premier, c'est sur ce que vous avez dit, Madame la représentante de Nouakchott et plusieurs d'entre vous, sur
les services publics. Et le deuxième point, c'est sur la question des femmes. Pour nous, les entreprises, en l'occurrence à l'international, on considère que il n'y a pas d'avenir à l'international si on ne règle pas le problème des services publics. Le ministre l'a dit tout à l'heure, il a parlé de cette initiative qu'on a lancée au printemps sur les services essentiels à l'international, qui est une initiative née de la Covid. Parce que dans toutes les réunions internationales qu'on a eues par web, avec les uns et les autres, Emilia la première, Emilia Saïs, que vous avez vue tout à l'heure, revenait sur le fait que la pandémie faisait encore plus prendre conscience de l'importance de l'eau et de l'assainissement, de la gestion des déchets, etc., etc. Et de ce point de vue-là, quand tu dis, Geneviève, on se rend compte que les services publics sont vraiment essentiels, mesdames et messieurs les élus, membres de cette, enfin, participant à cette rencontre, s'il vous plaît, aidez-nous. Nous, les entreprises, on sait réaliser des choses. On n'est pas nécessairement les meilleurs, il y en a d'autres. Je ne suis pas là à dire les entreprises françaises savent tout faire. Je suis simplement en train de dire qu'une station d'épuration, un réseau d'eau potable, des nouveaux systèmes off-grid pour de l'électricité, etc., on sait faire. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, et c'est ce que dit d'une certaine manière la maire de Nouakchott, c'est ce que disent dans toutes les réunions, les différents élus qu'on entend, dans les pays dits émergents, c'est améliorer la maîtrise d'ouvrage public. Là-dessus, c'est vous qui êtes crédible. C'est pas nous. Et s'il vous plaît, utilisez les compétences que vous avez, utilisez les réseaux que vous avez, avec ou sans diaspora, on en parlait à propos du Liban, mais c'est vrai ailleurs. Utilisez ça. Parce que quand vous vous dites à vos homologues en Amérique latine, en Afrique, en Asie, voilà comment on fait, et du coup, on n'est plus exigeant vis-à-vis des entreprises, mais au moins, on sait de quoi on parle. Quand vous vous dites ça, vous parlez à des gens qui ne demandent qu'à vous écouter beaucoup plus que nous, puisque nous, je caricature, nous, on est là pour vendre notre soupe, si je puis dire. Vous, vous êtes là pour faire que ça s'améliore. Et ensemble, je pense qu'on peut faire de vraies choses. On les fait beaucoup, d'ailleurs, avec Christine Moreau et l'équipe du MAE, puisque j'ai aussi une fonction au MAE. Deuxième et dernier point, j'en aurai terminé, les femmes. Moi, je suis très étonné quand j'entends la maire de Nouakchott, quand j'entends dans les différentes interventions Célestine Tchakourtès, que beaucoup d'entre vous connaissent, ex-présidente des maires, des femmes maires d'Afrique, quand j'entends la nouvelle maire de Bogota, Claudia Lopez, parler, Bogota, je rappelle, c'est 7 millions d'habitants, hein, parler de ce qu'elles font. Quand on était avec plusieurs d'entre vous au Forum urbain mondial et qu'on avait les responsables d'Afrique du Sud, de Urban Poor, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des bidonvilles, là, on parle de choses très concrètes, très quotidiennes, les questions d'école, les questions d'éducation, les questions de formation, les questions de services publics. Et nous, ce n'est pas pour faire joli dans le paysage, nous on considère que le rôle des femmes dans le développement local doit être encore plus mis en avant. On l'a dit, je l'ai dit, mais je ne suis pas le seul, dans les différents, je parlais du Forum urbain mondial, demander à Maïmouna Ahmad Sharif, la patronne de ONU Habitat, ce qu'elle en pense. Pourquoi ? Non pas parce que les femmes sont mieux que les hommes, il faut passer un petit peu à autre chose, mais parce qu'il y a un quotidien de la ville qui, dans beaucoup de civilisations et historiquement, est davantage assuré par les femmes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elles-mêmes. Et encore une fois, Maïmouna Ahmad Sharif, elle n'est pas pour rien patronne de ONU Habitat. Elle sait de quoi elle parle. Et Claudia Lopez aussi, et Madame aussi. Donc, nous, on est demandeurs d'aller plus avant dans cette relation qui se noue autour de CGLU, autour de CUF pour ce qui est de la France, parce qu'on pense que on va plus loin avec nos propres élus ES, qui n'excluent pas les élus S, mais on a besoin d'aller, en particulier dans les pays émergents, davantage dans cette relation-là. Voilà, c'est mes deux premières questions.
Merci, merci beaucoup Gérard. Tony, alors président de la CIRMA, Conférence
interrégionale des réseaux régionaux multi-acteurs. Ce sont des associations ou des groupements d'intérêt public. Jean-Marie Tétard, pour le GIP des Yvelines, est membre invité et a rejoint également nos travaux. Donc, moi, je veux dire ici et saluer l'engagement qui est celui de chacune et de chacun d'entre vous dans la proximité auprès de vos collectivités et connectée à l'international. Elle n'est pas que sur le local. Vous êtes les élus de la République décentralisée, dont ceux de la proximité qui, comme ça a été rappelé, il y a un mot qui n'a pas été prononcé, donc pardon pour la francophonie, je vais le prononcer en anglais. La crise de la Covid-19 dit qu'on est tous dans le même bateau et que c'est enfin la société du care, enfin, d'être attentif aux autres, de prendre soin. Mais c'est ce que chacune et chacun faisait dans l'action extérieure des collectivités en prenant soin d'un peu plus loin que le territoire ou les administrés qui étaient les leurs. Donc les RRMA fédèrent les collectivités locales et territoriales. Moi, je veux dire ici avec conviction que ce sont des lieux de levier importants territoriaux pour mettre en place des synergies avec des services publics, locaux ou d'État, des OSC, ONG, associations, et également les acteurs économiques qui, par le jeu, notamment RSE ou autres, ont mis en œuvre des actions bienveillantes et d'action. Il y a la thématique qui a été dite sur l'éducation, sur l'EXI, qui est importante et qui peut être un levier sur le périscolaire, notamment chez nous en termes d'éducation. Il n'y a pas que le sport et la culture, c'est important, mais il y a aussi un accès à la citoyenneté internationale et à la citoyenneté mondiale, c'est important. Peut-être que, alors, on fait souvent le discours au présent pour les absents, donc désolé, mais je dis ça pour que ça passe les murs d'ici et que vous puissiez le répéter. Vous êtes des convaincus. Je pense qu'en France, on ne saisit pas assez ce qui sera un point historique et de basculement entre les OMD et les ODD. Moi, je vais faire partie de ceux qui pensent que, historiquement, les OMD continuait une notion de postcolonialisme et de différenciation territorialisée, de il y a les riches, il y a les pauvres et il y a les autres, etc. Les ODD nous placent pleinement sur le fait que nous sommes dans le même bateau et que nous sommes tous en développement et que ce développement doit être harmonieux. Je pense qu'on ne saisit pas assez le basculement qui s'opère. La CIRMA et les RRMA, notamment en lien avec l'AFD, avec un fonds dédié, administre à destination des OSC, donc faites-le savoir auprès des associations qui sont elles-mêmes connectées. Il y a un programme récital ODD pour faire connaître ces ODD auprès du grand public, notamment. Alors, s'il faut un diablotin, j'en suis toujours un. Du côté de mon grand-père au Maroc, on dit que ce sont les djinns, les malingénies qui mettent les choses. Donc oui, et mille fois merci que les 1% deviennent plus nombreux sur les éléments. Donc c'est une bonne chose. Néanmoins, le débat de fond reste encore la répartition des richesses. Moi, je veux bien qu'on se dise, au nom des assiettes qui sont les nôtres, qu'est-ce que je peux développer. Jean-Marie le fait en tenant les deux bouts de la chaîne sur un accès à l'eau à ses administrés les plus précarisés, et puis, comme on le fait d'autres, construction d'accès à l'eau là où il n'y a pas d'eau dans certains pays ou dans certaines régions. Mais il y a des leviers qui doivent être des leviers importants, taxation des transactions financières, GAFAM notamment, etc., qui doivent être pour les États, au nom de ces ODD, autant de leviers à venir de politiques publiques concertées avec les gens. Donc moi, je le dis aussi là, parce que ça veut dire que ce combat-là sur les biens communs doivent être des combats communs. Et pour terminer, en remerciant les contributions des uns et des autres, l'outil important qui a été finalisé avec les équipes de Madame Moreau sur sur le répertoire et la notion d'engagement pour les élus à l'action extérieure. Si on passe aux EDD, eh bien, il faut qu'on passe à une diplomatie démultipliée en 5D, D de dialogue, de démocratie, diaspora, droits humains, développement durable. Ce sont nos combats communs à mener ensemble.
Merci, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être, avant de passer la parole à Madame Moreau et de vous la rendre, voir si on est en capacité de présenter l'intervention donc de Madame Eun Cho, peut-être que je ne prononce pas très bien, donc qui est élue au sein de la métropole de Séoul. Donc, est-ce qu'on est en capacité de... Oui.
Bonjour, 안녕하세요. 서초구청장 조은입니다. 제11회 프랑스 지자체 국제교류 포럼 개최를 진심으로 축하드립니다. 코로나19 팬데믹 가운데서도 포럼이 열려 대단히 기쁘고 뜻깊게 생각합니다. 행사를 준비하신 시네지유르 프랑스와 관계자분들께 깊은 감사를 드립니다. 바이러스에 굴하지 않는 그 용기와 의지에 큰 박수를 보냅니다. 이 포럼에는 2016년 제7회 행사 때 제가 직접 참가했었습니다. 그때 서초구를 소개하면서 가수 싸이의 강남스타일 노래에 나오는 강남역이 있는 도시가 바로 서초라고 했는데요. 서초구는 이뿐만 아니라 삼성과 LG, 현대기아자동차 등에 있는 젊고 활기차고 역동적인 도시입니다. 또 예술의 전당과 오페라 하우스, 국립국악원, 국립중앙도서관 등에 있는 문화예술의 도시이자 클래식 음악의 도시이기도 합니다. 서초구는 프랑스와도 인연이 깊습니다. 프랑스인들이 많이 살아 작은 프랑스라고 불리는 설의마을이 있고 프랑스 학교도 있습니다. 파리 15구와 닮았다고 해서 서초구와 파리 15구는 교류협력 MOU도 맺었고 샹송과 K-POP이 만나는 한불 음악축제도 매년 개최해오고 있습니다. 아쉽게도 올해는 코로나19로 한불 음악축제가 취소되었습니다. 세계 각국이 다 그러하듯이 코로나 방역을 위한 부득이한 조치입니다. 대한민국이 모범적인 K-방역으로 전 세계의 주목을 받고 있다면 그 중심에는 서초구의 빠르고 과감한 S-방역이 자리하고 있습니다. 서초구는 확진자의 동선을 투명하고 신속하게 공개하고 해외 입국자 전원을 조사하고 철저한 자가격리, 10명 이상을 한꺼번에 검사하는 취합검사, 마스크와 향균 필름 지원, 학교와 공공시설의 발열 체크 시 AI 로봇 보급 등으로 주목을 받고 있습니다. 또 온택트 시대를 맞아 각종 행사와 강좌를 온라인으로 진행하고 유튜브에도 올리는 등 스마트 기술을 활용한 온택트 행정을 다양하게 펼치고 있습니다. 이른 서초구의 코로나 대응을 화상통화를 통해 해외 자매 도시인 프랑스 파리 15구, 터키 이스탄불 시실리구와 공유하기도 했습니다. 코로나19로 세계 여러 나라가 고통을 겪고 있지만 이렇게 각국의 자치단체가 서로 정보를 공유하고 긴밀히 협력해 나간다면 반드시 이 위기를 극복해 낼 것으로 믿습니다. 이번 제11회 프랑스 지자체 국제교류 포럼이 위기 극복의 그날을 앞당기는 디딤돌이 되기를 바랍니다. 또 지자체 간 교류와 협력에 있어서 포스트 코로나 시대에 맞는 새로운 모델을 찾고 서로 우정을 다지게 되기를 기대합니다. 서초구 또한 한국 내 프랑스 교류 도시 그룹의 회장 도시로서 앞으로도 한불 지자체 간 교류가 활발히 이루어질 수 있도록 더 많은 관심과 열정을 기울이겠습니다. 감사합니다.
Alors effectivement, vous l'avez compris, je voulais préciser que Madame Cho était présidente du groupe Pays France, de l'association des collectivités coréennes. Et si on écoute effectivement son propos, je pense qu'elle est une convaincue de la nécessité de l'action internationale. Alors, avec toute la démarche Ville durable, Smart Cities, comment la technologie peut être aussi au service de la lutte contre la pandémie, mais aussi de la culture, du soin aux personnes les plus défavorisées. et effectivement une convaincue du nécessaire échange entre collectivités pour apprendre les uns des autres et pour trouver des solutions communes. On retrouve des éléments de discussion que l'on a eus au tout début. Alors, Madame Moreau, je vais vous proposer de réagir à votre tour, et puis je vous propose, alors je n'ai pas l'heure sous les yeux, mais je vais regarder. Oui, on a peut-être... Alors, on pourra peut-être prendre une question de la salle. Désolée, on a un petit peu débordé du timing, et ensuite écouter Corinne Lajarge. Donc, Madame Moreau.
Oui, merci beaucoup. Écoutez, c'est ma réaction, elle est très consensuelle avec tout ce que vous avez dit, hein, mais puisqu'il faut faire des commentaires, en fait, je voudrais souligner, je me mets à la place des nouveaux élus, finalement, qui doivent élaborer leur politique internationale, en fait, leur programme. Et je me dis, avec toute l'expérience qu'on a partagée au cours des dernières années, que quand il faut, au moment de faire des choix, eh bien, l'action internationale de la collectivité, elle reflète l'identité de cette collectivité. Et voire, elle permet de la renforcer. Et j'ai une pensée toute particulière pour les intercommunalités, parce que j'ai présent à l'esprit quelques exemples où un programme bien ciblé de coopération internationale a permis aux différents éléments de l'intercommunalité, vous savez comment ça se passe, un petit peu de méfiance, on ne se connaît pas bien, etc., de trouver une cohésion et de renforcer leur identité. Là, ça, c'est le premier point. En plus de ça, je voudrais dire que c'est important de ne pas isoler la coopération. Bien sûr, il y a l'international, puis il y a le national, mais tout ça se mélange très en permanence. Et encore plus dans le monde d'aujourd'hui, et de plus en plus chaque jour ou chaque année. Et il en est de même des relations internationales. On ne peut pas les isoler auprès d'un élu ou auprès d'un service, et le mieux, c'est de les conjuguer avec les différentes thématiques, les différentes spécialités des autres élus. Ce qui est, je le reconnais bien, une difficulté pour l'élu en charge des relations internationales et pour les agents qui travaillent avec lui, parce qu'il faut aller en permanence auprès des autres élus, proposer des choses, pénétrer en fait dans leur domaine de compétences qu'on ne connaît pas forcément très bien. Et il y a aussi le problème, je dirais, de la prise en charge politique. Et donc, c'est important que ce soit carrément le maire ou le président de la collectivité territoriale qui assume ce côté international, lequel veut dire beaucoup d'interrelations entre les différentes personnes qui travaillent avec lui. Voilà. Je voudrais aussi rebondir sur la notion de la collectivité territoriale assembleuse des énergies. C'est tout à fait vrai. Bon, il y a les entreprises, il y a la société civile, il y a les aspirations des citoyens, il y a les diasporas et tout ça. Il y a aussi, pour ce qui concerne les jumelages, les comités de jumelage. Et on sait que historiquement, on est dans une période où il y a des remises en cause parfois de la notion de jumelage. Je pense que l'une des raisons, c'est que trop souvent, les comités de jumelage sont laissés à eux-mêmes, pas assez pris en charge, ou en tout cas, il n'y a pas assez de relations, c'est pas assez assumé par la collectivité territoriale. Et je pense que tout le monde aurait intérêt à ce que ça soit effectivement qu'il y ait plus d'interrelations entre la collectivité et les comités de jumelage. Voilà, je ne vais pas plus loin.
Merci, Madame Moreau. Ben, peut-être pouvons-nous prendre une question, si quelqu'un souhaite poser une question aux intervenants. En attendant, en tout cas, si pas de questions se posent, peut-être Jean-Marie Tétart et Élise Pereira-Nunes, si vous voulez réagir aux réactions ou à nos interlocutrices du bout du monde. Oui. Et ensuite, Madame Lajarge pourra faire notre Élise, allez-y.
Alors, moi, pour la raison pour laquelle je n'ai pas parlé du care, c'est que c'est très souvent une compétence qu'on recoupe aux femmes. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué en premier lieu, mais je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que j'ai pu entendre, par rapport au fait que dans ces moments-là, l'accès à l'éducation, comme on a pu le voir à cause de la crise Covid, c'est une question qui est extrêmement importante, puisque l'arrêt, parfois, de l'éducation peut avoir des conséquences assez désastreuses. L'arrêt de l'accès à l'éducation peut contribuer à empêcher certains publics de progresser et de s'émanciper. Et moi, je voudrais simplement pouvoir dire que cette transversalité des combats et des engagements, il faut qu'elle soit partout, que ce soit donc dans une mairie, dans les services, que ce soit travailler avec le département, que ce soit travailler avec la région, que ce soit travailler avec l'État ou d'autres instances, d'autres organismes, d'autres collectivités. Je pense qu'encore une fois, cette crise nous a clairement fait comprendre que nous avions les mêmes combats et les mêmes urgences auxquelles faire face, qu'il s'agisse d'égalité, qu'il s'agisse de continuer à fonctionner tout simplement. On l'a bien vu avec les masques. Hein. Les masques, c'était la solution immédiatement trouvée. Il y a des amis d'autres pays qui en ont envoyé dans certaines villes. Il y a des citoyens qui se sont mis en fer eux-mêmes. Il y a des régions qui ont aidé des actions citoyennes pour qu'elles puissent continuer à protéger les citoyens, les associations. Mais ça va aussi créer un problème de déchets. Donc, il va falloir aussi trouver une réponse à cette question-là. Et encore une fois, ça va tous nous concerner. Donc, regardez ce qui se fait ailleurs. Il y a des start-up, par exemple, qui ont lancé du recyclage à leur façon. Peut-être regarder comment ils s'en sont sortis.
Oui, je crois que vos réactions sont assez en accord avec les axes que nous avions présentés. C'est-à-dire qu'effectivement, le rôle de la collectivité locale dans ces transformations, intercommunalité, etc., comme assembleuse, comme le disait Madame l'ambassadrice, ou comme organisatrice de la mise en coopération et en solidarité des territoires, ça, je crois que c'est très important, et ça se déclinera en politique territoriale de solidarité. Moi, je voudrais réagir à l'intervention de la représentante de Corée. Pendant ce confinement, j'ai eu l'impression de me rapprocher de mes collègues africains, parce que pendant ce confinement, on m'a confié la population. L'État m'a dit « Occupe-toi de ta population, au mieux, débrouille-toi ». Et donc, je me suis débrouillé avec mes anciens qui étaient isolés, avec mes commerçants, avec mes associations, pendant tout le confinement. J'ai eu l'impression d'auto-organiser ma ville comme jamais je ne l'avais fait. Et quelque part, quand je téléphonais à mes amis africains qui ont des coopérations avec le département des Yvelines, on échangeait sur comment on se débrouille, parce que eux, c'est leur vie quotidienne, mais moi, je l'ai découvert cette fois-ci. Et j'ai échangé avec eux sur... Ça m'a appris beaucoup sur comment faire chez moi aussi.
Merci Jean-Marie. Alors, je crois que Gérard voulait intervenir. Une minute, et ensuite, je donne la parole à Corinne Lajarge. Une minute, Gérard. Oui.
Ce sera même peut-être moins, parce qu'au fond, je m'aperçois que la question posée, luxe ou nécessité, on y a répondu autour, mais on n'a pas répondu. Alors moi, je vais dire, le ou la personne, qu'elle soit élue, chef d'entreprise, ONG, association, ce qu'on veut, qui dit que c'est un luxe, c'est qu'il n'a rien compris au problème. C'est aussi simple que ça. C'est une nécessité absolue, pas seulement pour faire joli dans le paysage, et même pas du tout pour faire joli dans le paysage, mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas considérer que l'action internationale est prioritaire, parce que je vous rappelle que la population urbaine dans le monde entier va augmenter de 2,5 milliards de personnes d'ici 2050 à 75% dans les pays émergents. C'est notre responsabilité commune, tous les élus, et notamment les élus français. Merci.
Juste un petit point. Oui. Je voudrais simplement dire que pour faire comprendre que c'est une nécessité à nos populations, je rappelle ce que tu as dit, il faut aussi être attentif aux besoins de nos populations. C'est très difficile d'expliquer le développement durable, etc., à nos habitants lorsqu'ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils vont manger le soir ou se loger. Et donc, quelque part, ça ne sera compris que si on a une symétrie entre la prise en compte de nos défavorisés, de nos exclus, et qu'on fait en même temps la solidarité ailleurs.
Merci. Alors, Corinne Lajarge, à vous la tâche de mettre en perspective ce que vous venez d'entendre et de nous dire comment vous analysez les, les propos que vous avez entendus et ce que ça vous donne comme perspective pour l'action internationale des collectivités.
Merci Geneviève qui me vous voit ce matin. Je suis très, très surprise.
Voilà Corinne, merci à toi.
Donc peut-être justement pour préciser le cadre de l'intervention, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble avec Cités Unies sur une recherche sur l'internationalisation des villes et des territoires avec d'autres partenaires de collectivités territoriales, l'AFD, la DECT et la Caisse des dépôts plus récemment. Donc moi j'avais repris en fait les termes du débat, est-ce que l'AICT est un luxe ou une nécessité. Donc ça a été bien montré par les intervenants et on avait parlé, nous, dans la première phase de cette recherche en 2016, de l'irrésistible internationalisation des villes et des territoires. Et je pense que c'est ce que Jean-Marie vient de dire, ou Monsieur Wolf également. Alors, je voulais ici faire une petite précision, introduire ce terme d'internationalisation, parce que je pense qu'il va au-delà justement de la question de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des collectivités territoriales ou action internationale des collectivités territoriales. C'est vrai qu'il y a bien cette internationalisation donc, qui est pensée comme un flux des liens autour d'un territoire, mais elle est souvent pensée comme voulue, c'est-à-dire ce que veut la collectivité territoriale. Et là, on peut penser à cette politique d'action internationale de la collectivité. Mais il y a toute cette dimension d'internationalisation vécue. Auparavant, je parlais d'internationalisation subie et je préfère le terme d'internationalisation vécue parce que je pense qu'il n'y a pas que du négatif, au contraire, dans l'internationalisation. Et en fait, c'est toute l'internationalisation produite par les acteurs du territoire. Tout à l'heure, Élise Pereira parlait des villes faites par les gens d'origine étrangère, leurs parents, les villes, donc il y a les nouveaux habitants, mais il y a aussi l'internationalisation produite par les acteurs économiques, la recherche économique, etc., j'en passe, les échanges culturels. Donc je pense par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que, on en a suffisamment parlé dans le cadre de cette recherche et dans tous les échanges qu'il y a eu, que les collectivités territoriales doivent alors garder la main sur ces phénomènes d'internationalisation, non pas pour contrôler, comme le disait tout à l'heure Madame Pereira, mais pour animer, saisir les opportunités. J'avais noté aussi réguler, parce que parfois il y a des phénomènes d'internationalisation qui vont être négatifs pour une partie de la population. Et donc effectivement, on aura des gens qui vont être en souffrance et auxquels il faudra répondre à leurs demandes. Et c'est pour ça qu'elles seront convaincues de l'intérêt de l'internationalisation. Donc il y a quand même un rôle de régulation, d'alimentation. Donc, et l'action extérieure des collectivités territoriales, elle est indispensable parce que c'est un outil formidable pour ce rôle de régulation. Alors après, je voudrais peut-être un deuxième point rapidement, parce qu'intervenir la dernière, ce n'est pas facile, dire que, est-ce que c'est un luxe? C'est encore perçu comme un luxe. Je suis désolée d'être rabat-joie dans tout, parce qu'ici, on est ce qu'on appelle le cercle des convaincus, ça a été dit par certaines personnes. Et effectivement, pour être légitime, cette politique, elle doit être articulée aux autres politiques publiques et elle doit être aussi une politique publique, comme l'a dit Jean-Marie tout à l'heure. Donc, ça ne va pas s'arranger avec la crise du Covid, parce que là où je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous, vous disiez on a pris conscience des interdépendances, certes, et ça, c'est vraiment net. Mais je ne suis pas sûre que la prise de conscience des interdépendances produise nécessairement de la coopération. Elle peut au contraire effrayer et produire de repli sur soi. Donc c'est comment on fait en fait pour passer de cette prise de conscience de l'interdépendance sans que ça produise l'enfermement, mais au contraire de l'ouverture. On l'a vu aussi dans la deuxième phase de la recherche qu'on a faite, qu'on avait centrée sur comment l'internationalisation était pensée les élections locales françaises, en l'occurrence les municipales. Donc on a fait des entretiens, on a fait des séminaires, on a fait un colloque. Elle n'était pas pensée, cette question d'internationalisation. C'est un non-sujet. On a parlé dans le document de synthèse d'une boîte noire dans le dialogue démocratique. Hein. Elle est vue parfois, quand on en parle, c'est pour en faire un objet de... peut-être politique politicienne, pour instrumentaliser la coopération. Donc, en fait, il y a tout un travail encore à faire là-dessus. Donc, juste deux mots. Hein. On va redire, c'est l'importance de montrer l'intérêt local à coopérer. Et ça, cet intérêt local, il doit être pensé aussi bien dans les pays partenaires, dans le cadre de coopération décentralisée, que chez nous. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que pendant longtemps, quand on a beaucoup travaillé au CIDEL sur ces questions d'intérêt local, on pensait que l'intérêt local ici, mais en fait, il faut sans cesse montrer l'intérêt local de la coopération partout. J'ai rencontré l'année dernière les responsables des relations internationales de la ville du Cap, en Afrique du Sud, qui me disaient, qui est en coopération avec la région Bourgogne-Franche-Comté, qui me disaient, mais nous, on doit défendre cette politique internationale, on doit défendre chaque... alors c'est pas des euros, c'est des rentes si je dis pas de bêtises, dépensées pour cette politique de relations internationales. Donc on est très exigeant et on construit une vraie politique parce que justement on doit justifier de chaque argent dépensé. Donc il faut travailler la question des résultats, la question de l'impact aussi bien ici que là-bas. Donc là, il y a une question qui se pose quand même, c'est la question de la mesure. Hein. Mesurer l'intérêt local d'une coopération, c'est pas forcément évident, parce qu'on va être sur parfois du quantitatif, mais on va aussi être sur du moyen-long terme, des impacts à moyen-long terme. Comment on mesure ça? C'est pas très simple. Deuxième petit point, ça impose d'ajuster les politiques de coopération, hein, avec un travail interne au niveau de la collectivité. Une mise en débat, on y revient, et une expression des attentes vis-à-vis du partenaire. Comment on sort justement de ces coopérations, alors là je reviens pardon, aux coopérations décentralisées, mais des coopérations où on va aller aider les autres, et comment on dit, ben voilà, moi aussi j'ai mes problèmes, qu'est-ce qu'on fait, comment on dialogue, comment on travaille ensemble. J'ai encore juste un petit point. Alors, la question, je reprenais ce que disait Jean-Marie Tétard tout à l'heure, il disait qu'il faut construire une vraie politique publique avec un document de stratégie, hein, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Cette politique, elle doit être fondée sur une vision et des valeurs, bien sûr, et c'est la dernière chose, c'est la troisième phase de cette recherche qu'on construit avec Cités Unies et tous nos partenaires cette année, c'est de produire des diagnostics d'internationalisation. Hein, c'est-à-dire, en fait, en partant des réalités du territoire de la collectivité, dont plusieurs d'entre vous ont très bien parlé, hein, que ce soit dans les domaines... encore une fois, de la recherche, de la culture, de l'éducation, de l'économie, bien sûr. Hein. Il faut partir de ces réalités locales. Et c'est parce qu'on aura une meilleure connaissance de ces dynamiques que la collectivité pourra construire sa politique. Alors, en allant dans les creux, là où il n'y a rien, en fait, ou en allant, au contraire, là où il y a beaucoup de choses qui se passent, on pourra appuyer une dynamique, la renforcer, etc., et en saisissant des opportunités. Donc il y a vraiment, je dirais, une urgence, une importance, à la fois donc, à convaincre de l'intérêt à coopérer, mais aussi d'avoir cette meilleure connaissance du territoire qui permet de construire cette politique sur des fondements de la réalité des territoires, en fait, parce qu'elle sera d'autant plus ancrée et elle pourra donc convaincre aussi bien les autres élus que les acteurs du territoire, que ce soit les citoyens ou tous les acteurs de la société civile. Donc nous, on va faire ce travail cette année, on va produire des monographies à la fois pour produire de la connaissance et pour structurer cette méthodologie, parce que je pense que là, bon, on parlait de recherche, c'est de la méthodo, hein, de construire ces diagnostics d'internationalisation. Voilà, merci, c'est tout ce que
merci
je voulais dire.
Merci infiniment, Corinne.
Vous l'applaudir.
Alors, je vous propose qu'on clôture là notre première conférence. Merci beaucoup à chacune et à chacun. Merci à nos deux interlocutrices coréennes. Donc, il y a des représentants de la GAOC, Monsieur Kim dans la salle, et en Mauritanie. Merci à elles. Merci à nos élus. Le temps qu'on quitte le plateau et que l'atelier... Alors, il y a un atelier avec Plateforma, donc Frédéric Vallier, sur l'Europe, qui va se tenir dans cette salle, puis les autres ateliers dans d'autres salles. On a un petit film d'une minute à passer, donc qui va permettre la transition. Et puis, je vous rappelle, si vous voulez tester de façon ludique vos connaissances en matière d'action internationale des collectivités, et pour tous les fans du Burger Quiz avec Alain Chabat, il y a une séance et trois cet après-midi où vous pouvez aller faire une battle entre équipes autour d'un quiz de l'AICT sur le même principe que le Burger Quiz. Merci infiniment. Bonne poursuite des travaux et donc place à l'atelier suivant.
Comment pouvez-vous engager votre collectivité dans l'action internationale? Commencez par développer une stratégie en vous appuyant sur les compétences de votre collectivité pour faire valoir votre expertise à l'international. Mobilisez les ressources humaines de tous les services de votre collectivité. Tout le monde y gagne en termes de connaissances et de retour d'expérience, ce qui permet de coordonner autour d'un projet commun les acteurs de votre territoire. Votre action est encadrée juridiquement par des lois. La loi de 2014 comprend l'ensemble des actions unilatérales des collectivités territoriales en matière internationale. Vous avez donc toutes les compétences pour agir dans le respect des engagements internationaux de l'État français. Nous vous aidons pour mobiliser des outils financiers comme les appels à projets de la DAECT, de l'AFD et des programmes européens. Par exemple, la ville de Rennes a engagé une collaboration sur le thème de l'environnement avec Santa Fe, via un appel à projet du Fonds français pour l'environnement mondial, afin de créer une réserve naturelle urbaine qui a eu pour objectif le partage d'expériences et de connaissances. D'autre part, à partir d'un programme européen, des collectivités territoriales françaises et algériennes ont monté le projet GESER, qui a ainsi permis de mettre en œuvre une politique locale pour la jeunesse. Osez vous engager à l'international et rejoignez-nous.